Alors, c'est une grande joie pour moi de pouvoir être avec vous ce matin, de pouvoir continuer donc cette série extraordinaire, Découvrir Jésus dans l'Évangile de Jean. Et je suis persuadé que vous êtes bénis jusqu'à présent par ces messages qui reviennent dimanche après dimanche. Et ce matin, donc, je veux ajouter ma voix donc dans cette magnifique série. Nous vivons dans une société où le nom de Jésus est soit inconnu, méconnu, carrément ignoré, ou voire même blasphémé et méprisé. Mais c'est bon d'avoir à Drummondville un endroit où le nom de Jésus est élevé, glorifié, adoré, aimé, sanctifié, honoré, chanté, célébré, exalté, magnifié, respecté, affectionné et prêché avec vérité, appuyé sur la Bible, sur les Écritures de la parole de Dieu. Et c'est ce que l'Église Nouvelle Vie à Drummondville veut faire dimanche après dimanche, élever le beau nom de Jésus. Et c'est ce qu'on veut faire encore aujourd'hui, ici et maintenant, donner la gloire, donner l'honneur, donner la louange à notre Jésus, à notre Sauveur, à notre Maître, notre Seigneur, parce qu'il en est digne et il le mérite pleinement. Amen. Est-ce qu'on peut lui donner encore, Seigneur Jésus? Seigneur, nous t'aimons, nous t'affectionnons, nous t'adorons. Parce que notre foi chrétienne, notre foi est fondée et basée entièrement sur la personne de Jésus. On avance dans notre vie chrétienne les yeux fixés sur la personne de Jésus, celui qui est notre chef suprême, celui qui récompense notre foi. Et c'est, vous avez certainement remarqué que c'est lorsqu'on détourne même un peu de temps nos yeux de sur Jésus, c'est là que notre vie se complique. C'est là que notre vie devient compliquée et qu'on s'égare dans des faux raisonnements et dans toutes sortes de mensonges trompeurs. Cette série, pour moi, je crois qu'elle tombe à point pour nous encourager, pour nous relever, pour nous édifier et pour fortifier notre foi dans la personne merveilleuse et glorieuse, magnifique de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi par excellence. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? On veut découvrir ou redécouvrir Jésus dans l'Évangile de Jean et nous allons regarder un texte que j'affectionne particulièrement, c'est l'Évangile de Jean au chapitre 12, les versets 12 à 19. C'est l'épisode qui nous décrit comment Jésus est entré à Jérusalem juste avant la semaine sainte, juste avant le moment où il va donner sa vie littéralement, physiquement, pour nos péchés, pour nous racheter. Et le texte nous dit ici dans Jean chapitre 12, le verset 12 à 19, « Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, donc à la Pâque, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus selon ce qui est écrit « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'eux-mêmes, ils les avaient accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts lui rendaient témoignage. Et la foule vint au devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez, vous ne gagnez rien, voici le monde est allé après lui. » Cet épisode du récit de la vie de Jésus est raconté en fait dans les quatre évangiles qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Matthieu le raconte, Marc le raconte, Luc le raconte et bien entendu Jean le raconte. Pourtant, dans chaque évangile, il y a des épisodes, il y a des récits qui leur sont propres. Matthieu a ses propres récits, Marc et Luc également, et Jean, bien entendu. Mais l'épisode de l'entrée de Jésus à Jérusalem sur un âne, alors que la foule crie « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël », se retrouve dans les quatre évangiles. Et pour moi, ça en dit long sur l'importance de l'événement. Et encore plus sur l'importance du message que l'événement veut nous amener pour tous les lecteurs, en tout lieu et en tout temps, et encore à Drummondville en 2022. Tous les commentateurs bibliques que j'ai consultés à propos de ce récit-là vont dans la même direction. C'est que cet épisode vise à affirmer et à confirmer la royauté de Jésus. Jésus est un roi. Jésus, en fait, il est le roi. Et c'est OK de présenter, je crois que c'est OK de présenter Jésus comme l'ami fidèle et tendre, comme on le chante à l'occasion, parce que c'est ce qu'il est aussi. Il est un ami fidèle et tendre. C'est OK aussi de présenter Jésus comme le sauveur qui pardonne les péchés, qui guérit les malades, qui relève ceux qui sont tombés, qui aime les pécheurs et qui est plein de compassion pour ceux qui sont perdus et ceux qui souffrent, parce que c'est ce qu'il est aussi. C'est correct de présenter Jésus comme celui qui, dans son humanité, a eu faim, a eu soif, a souffert, a éprouvé la douleur, de la tristesse, de l'angoisse, de la déception, parce que c'est ce qu'il est également. Jésus est tout ça. Mais il faudrait pas que ces présentations véridiques, ces présentations exactes de qui est Jésus, nous fassent oublier qu'il est le Seigneur. Il est aussi et surtout le Seigneur. Il est le Maître. Il est le Créateur, il est le Souverain, comme on vient de le chanter. Il est l'Immortel, il est l'Éternel Dieu, il est celui qui règne sur tout depuis toujours et pour toujours également. Il est celui que la mort n'a pas pu garder, celui que le tombeau n'a pas pu emprisonner. Amen. Il est celui que le diable n'a pas pu faire tomber. Il est celui qui marche sur l'eau, mais qui change l'eau en vin également. Il est celui qui a créé l'infiniment petit, mais aussi l'infiniment grand. Il est celui qui dit, la chose arrive. Celui qui ordonne et la chose s'exécute tout le temps et sans aucune exception et sans aucune résistance également. Il est celui à qui rien ni personne ne peut résister parce qu'il est le Seigneur de tous les seigneurs humains. Il est le roi de tous les rois humains. Également, il est le maître incontesté de tout l'univers. Amen. Il est grand. Il est celui devant qui même les anges se prosternent pour l'adorer en criant « Saint, Saint, Saint ». L'Éternel des armées, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Il est celui devant qui tout genou fléchira et toute langue confessera. Il est le Seigneur. Amen. Il est le Seigneur. Il est le roi. Est-ce que c'est votre vision? Votre vision de Jésus que nous voyons couronné d'honneur et de gloire. Vous savez, dire que Jésus est roi au Québec, ça crée des frissons. Parce qu'on est frileux au Québec avec tout ce concept d'autorité, tout ce concept de, surtout, de royauté. Et c'est pourquoi c'est difficile pour bon nombre de Québécois de saisir cette vérité biblique que Jésus est le roi. Parce qu'on vit dans une société et nous sommes une génération qui dit plutôt, mais moi, je permets à personne de me dire ce que j'ai à faire et quand j'ai à le faire. On veut notre liberté! C'est ce qu'on veut! Hein? On veut décider par nous-mêmes ce qu'on doit faire aujourd'hui. Je laisserai personne me juger ou décider à ma place. Je rejette toute autorité sur ma vie. Je veux prendre mes décisions. I, me, mine. Moi, me, myself, and I. Ça, c'est la devise du Québec. Et c'est pas pour rien que le concept de Jésus comme roi peut paraître si éloigné. De bon nombre de Québécois peut paraître si moyenâgeux, si archaïque, en fait, pour un très grand nombre de personnes. Mais ce matin, je veux qu'on puisse ensemble poursuivre notre découverte de Jésus dans l'Évangile de Jean en soulignant le fait et la vérité éternelle que Jésus est bel et bien le roi. Il est le vrai king. C'est lui le king. Amen. C'est lui le roi de tout l'univers. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie dans le concret? Qu'est-ce que ça signifie dans mon présent? Qu'est-ce que ça signifie dans mon passé, pour mon passé ou pour mon avenir également? Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. On va voir ensemble que Jésus, en tant que roi, a vaincu notre résistance, il a vaincu notre endurcissement et il a acquis notre obéissance et notre amour. On va voir ensemble également ce matin que Jésus, en tant que roi, nous protège dans tous nos combats et il nous défend contre tous nos adversaires présentement. Mais on va voir également que Jésus, en tant que roi, a gagné le combat contre Satan et qu'il va revenir pour vaincre sur tous ses ennemis alors qu'il va régner pour l'éternité dans son royaume de paix et d'amour parfait. Amen. Premièrement, il a vaincu notre résistance et notre endurcissement, et il a acquis notre obéissance et notre affection et notre amour. Voyez-vous, la Bible ne décrit jamais l'être humain, pécheur, perdu, comme étant à la recherche de Dieu. La Bible ne décrit jamais l'être humain comme étant quelqu'un qui cherche Dieu alors qu'il est perdu. En fait, la Bible entière décrit les êtres humains comme des personnes entêtées, endurcies, rebelles et insoumises à la justice de Dieu. Désolé de péter votre bulle. Mais c'est ce que la Bible décrit. Et même l'apôtre Paul ne ménage pas ses mots lorsqu'il décrit avec justesse et vérité la condition humaine telle qu'elle est réellement. Je vous la donne en vrac comme cela. Romains nous dit, il n'y a pas un juste. L'apôtre Paul dit, il n'y a pas un juste sur la terre, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont corrompus, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Là, j'entends pas beaucoup d'amen, mais je continue. Éphésiens, au chapitre 2, l'apôtre Paul dit, « Vous étiez morts par vos péchés et vos offenses. Vous marchiez selon le courant de ce monde, selon le prince des ténèbres qui dirige les fils de la rébellion. Vous viviez selon les convoitises de votre chair et vous étiez par nature des enfants destinés à la colère de Dieu. » Et je conclue avec 2 Timothée chapitre 3. Les gens sont égoïstes, amoureux de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles, ingrats, non religieux, pas de cœur, infidèle, calomniateur, cruel, traître, aimant le plaisir plus que les choses de Dieu. En voulez-vous encore? C'est comme ça que la Bible décrit la société, décrit l'humanité. Est-ce que vous avez l'impression que Paul est en train de décrire notre société dite moderne d'aujourd'hui? À lire les manchettes, à lire les journaux, à écouter les bulletins de nouvelles, c'est pas étonnant qu'on se reconnaisse dans cette description qui date déjà de près de 2000 ans. Elle est désagréable, mais elle est vraie. Parce que c'est la condition, c'est l'humanité vue par les yeux de Dieu. Cette semaine, je lisais dans la presse Boucard Diouf qui faisait une description par rapport à tout ce qui se passe. Il donnait son opinion par rapport à tout ce qui se passe à Montréal, mais qui se passe dans le monde entier. Et une citation de ce grand théologien qui est Boucard Diouf, il dit « Pensez que les humains sont naturellement bons en l'absence de loi est une grande illusion. » Je sais pas s'il a lu la Bible. Mais de penser que l'être humain est fondamentalement bon, et c'est ce que nous aimons, hein, se faire croire, que fondamentalement, ben dans le fond, c'est une bonne personne. Hein? On aime ça dire ça. Ah, dans le fond, là, c'est un bon gars. On va dire même c'est un bon diable. Hein? C'est quelqu'un, ah oui, il a ses défauts, là, mais fondamentalement, il est bon. Alors que Dieu dit tout à fait le contraire dans les Écritures. Un bel exemple de cette vérité se trouve dans la personne de Saul de Tarse. Saul de Tarse, c'est un homme extrêmement religieux. Si vous connaissez un peu son histoire dans les Actes des Apôtres, on raconte son histoire. C'est un homme extrêmement religieux, soucieux de respecter les commandements de Dieu. C'est un jeune homme, un jeune adulte plus zélé pour la religion que la majorité des autres jeunes de son âge. Toujours à la synagogue, au bon moment, il arrivait à l'heure à la réunion, il était là au temple, au bon moment également, il portait une attention particulière à tous les détails concernant la Torah, la loi de Dieu, il voulait s'assurer de tout bien faire, il se croyait donc juste, il se voyait comme bon, mais lorsqu'il a été confronté au message de Jésus, à l'évangile de la grâce qui était prêché par les chrétiens, sa vraie nature est ressortie. Sa vraie nature rebelle, sa vraie nature intérieure, ses vraies dispositions violentes contre Dieu ont fait surface. En fait, sa rébellion, son entêtement, son endurcissement l'ont amené à persécuter, à tuer, à faire emprisonner, à faire torturer tous les chrétiens qu'il pouvait trouver. Lui-même va parler de sa rage, va parler de sa fureur, va parler de sa grande colère contre l'Église de Dieu et contre le nom de Jésus. Jusqu'au jour où Jésus, le roi en personne, l'a rencontré sur l'autoroute entre Jérusalem et Damas. Et là, il y a eu une halte routière des plus intéressantes, dans un moment puissant et sur lequel Saul de Tarse n'avait plus aucun contrôle, aucun pouvoir. Jésus va l'arrêter dans sa furie, dans sa folie furieuse, va transformer son cœur endurci et rebelle et va lui donner un cœur de chair, un cœur attendri, un cœur qui va devenir soumis à la volonté du roi Jésus. Il va lui dire, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Jésus, le roi, a vaincu l'endurcissement, l'entêtement de Saul de Tarse, un homme qui était violent, blasphémateur, persécuteur de l'Église. Lui-même se décrit, se qualifie. Voici ce qu'il dit. Il dit, « J'étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. J'étais même le chef le premier des pécheurs, mais il continue en disant, mais j'ai obtenu miséricorde et la grâce de notre Seigneur a surabondé envers moi afin que je serve d'exemple, c'est-à-dire de modèle à ceux qui croiront en Jésus pour la vie éternelle. Et c'est pourquoi et c'est comment Saul de Tarse est devenu l'apôtre Paul qui a écrit environ la moitié du Nouveau Testament sur lequel est enracinée notre foi en Jésus. Sa conversion, la victoire de Jésus sur l'entêtement et l'endurcissement de Saul de Tarse est devenue un modèle, un exemple pour notre propre conversion. Et ça me rappelle la mienne, malgré mon côté religieux que j'avais à l'époque. J'étais un ado insoumis, rebelle, orgueilleux, entêté, endurci également au message de l'Évangile. Je me souviens de m'être moqué de chrétiens qui témoignaient l'Évangile dans un parc et avec la gang de gars qu'on était, on s'est moqué d'eux, on les a ridiculisés, je faisais partie de leur nombre. Je me souviens d'avoir argumenté avec des chrétiens qui me présentaient l'Évangile et d'essayer de les confondre, mais sans succès parce qu'un jour, le roi m'a confondu. Le roi m'a vaincu, il a vaincu mon endurcissement. Et j'ai plié le genou devant sa majesté, le Seigneur des seigneurs et le roi des rois et son autorité. Il m'est arrivé ce que le prophète Osée a déclaré de la part de Dieu, et c'est ça vous est arrivé aussi, lorsque Dieu dit, « Je les tirerai avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour, et je serai pour eux celui qui relâche le joug de sur leurs épaules. » Alléluia. C'est ce qu'il a fait pour nous. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le nom de Jésus signifie tellement, tellement pour nous. Il a vaincu notre endurcissement, notre résistance, pour ensuite acquérir notre amour, notre allégeance, notre obéissance, notre soumission et notre adoration. Le cœur transformé par la puissance de Jésus. Maintenant, son nom est devenu, on est devenu amoureux de lui. Amen. Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus parmi nous ce matin? On est reconnaissant et on chante des chants comme ce matin. Ta grâce m'a justifié, ta grâce m'a libéré, ta grâce a fait des grandes choses dans ma vie, m'a pardonné, sauvé. Et il m'a rempli de son amour, de sa paix et de sa joie. Et si vous avez été vaincu par le roi et s'il a acquis votre amour, dites amen. Il a acquis mon obéissance et mon allégeance. C'est ce qu'il a fait concernant mon passé. C'est pourquoi nous sommes venus à lui, c'est parce qu'il nous a vaincus d'abord. Dans notre entêtement et dans notre endurcissement, il a levé le voile de nos yeux, il a changé notre cœur. C'est ce qu'on appelle aussi la nouvelle naissance. Mais deuxièmement, qu'est-ce qu'il fait encore aujourd'hui? En tant que roi, Jésus nous protège dans nos combats et il nous défend contre nos adversaires. Vous savez, le devoir d'un roi, typiquement, un roi digne de ce titre, c'est de protéger son peuple contre les invasions, contre l'ennemi, contre les attaques des adversaires qui veulent envahir le territoire, qui veulent faire du mal et du tort aux citoyens du royaume du roi. Et pour accomplir ce devoir-là que le roi a, il a à sa disposition une armée, des soldats, des stratèges, il a des armes, il a des ressources pour arriver à bien protéger et défendre son peuple contre les agressions extérieures et même intérieures. Et notre roi Jésus est un roi digne de ce nom également, digne de ce titre, parce que Jésus accomplit son devoir et son rôle de protecteur et de défenseur à merveille envers tous ceux qui lui appartiennent et qui font partie de son royaume. Il nous protège, il nous défend. En tant que chrétien, nous appartenons à Dieu. L'apôtre Paul dit, le Dieu que je sers, à qui j'appartiens, nous appartenons à Dieu, nous faisons partie de son royaume, de son peuple, et même nous sommes ses fils et les filles du roi. Amen, c'est ce que nous sommes, c'est ce que la Bible décrit. Nous sommes sa famille. Et à cause de ce statut, nous avons aussi des adversaires. Nous avons aussi des ennemis qui nous font la guerre. La Bible ne cache pas cette réalité que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre et que nous avons des adversaires et ce ne sont pas, non, ce ne sont pas vos voisins, c'est pas la personne qui est assise à côté de vous ou en arrière de vous, n'avez pas à craindre, ce sont pas vos collègues de travail ou vos collègues d'études, mais nos adversaires, nos ennemis, le diable, le péché, la chair, l'esprit de ce monde et la mort. Ce sont nos réels adversaires. Et Jésus sait et il les connaît très bien, ces adversaires qui font la guerre à notre âme parce qu'il les a affrontés lui-même. Il y a fait face lui-même alors qu'il marchait sur la terre. Il a dû même lutter dans un combat corps à corps avec le diable et subir toutes les tentations et tous les combats que l'ennemi peut apporter parce qu'il a été tenté et éprouvé en toutes choses comme nous le sommes également, mais parce qu'il a vaincu dans tous ses combats et parce qu'il est le roi par excellence, il peut également nous protéger et nous venir en aide dans nos propres combats et devant les propres attaques de l'ennemi. Amen. Il est notre protecteur, il est notre roi défenseur, il protège notre foi, il protège ton âme, il défend notre salut, il protège notre cœur, il garde notre pureté et il défend notre justice contre les accusations du diable. C'est Jésus qui dit à Pierre, « Pierre, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, pour vous battre, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. J'ai prié pour toi, j'ai combattu pour toi, j'ai intercédé pour toi afin que ta foi ne défaille pas. » Jésus a promis qu'il garderait tous ceux et celles qui lui appartiennent et que le Père lui a donné. Il dit dans l'Évangile de Jean, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne même ne peut les ravir de ma main. Mon Père qui me les a donnés est même plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Nous sommes bien protégés. » Tu es bien protégé sous la protection du roi, sous la protection surnaturelle de notre roi Jésus. Même le psalmiste au psaume 91, texte magnifique, disait déjà, « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à Dieu, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains. » Et Dieu continue et dit, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je lui ferai voir mon salut. » Amen. Est-ce qu'on peut donner une main au Seigneur? Il me protège. Il protège mon cœur, il protège mon âme, il protège le salut qu'il a mis en moi. Et combien de fois Dieu t'a protégé sans même que tu le réalises? Combien de fois Dieu a empêché l'ennemi de faire des choses à ton égard. Pourquoi? Parce qu'il te protège. Il a mis comme un dôme sur toi. Il a mis une ligne de défense autour de toi que l'ennemi ne peut pas traverser. Seul le ciel, en fait, est au courant de toutes les fois où l'ennemi a voulu nous cribler comme le froment, a voulu nous ravager, mais Dieu l'en a empêché. Depuis notre naissance, jusqu'à notre dernier souffle, tu es sous la protection du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Et ça, ce n'est pas rien. Rien ni personne ne peut traverser cette ligne de défense qu'il a érigée autour de nous. C'est son engagement et c'est sa promesse. Je vais vous dire quelque chose de profond. Prenez bien attention à cette prochaine phrase. Lorsque Jésus nous défend, c'est pour nous défendre. C'est fort. Mais je vous explique. Lorsque Jésus nous défend de faire quelque chose, c'est pour nous défendre. C'est pour nous protéger. Quand la parole de Dieu nous défend de faire quelque chose, nous restreint de faire quelque chose, ce n'est pas pour nous mettre des bâtons dans les roues, pour nous rendre malheureux, puis nous empêcher d'avoir du plaisir. Au contraire, c'est pour nous protéger des attaques de l'ennemi. C'est pour notre bien. Parce que Jésus, il est le roi, il est notre roi. Et parce qu'il a toute autorité, il a tous les droits de me donner des ordres. Il a tous les droits de m'interdire de faire quelque chose. Il a tous les droits de me commander de faire quelque chose. Il a tous les droits de nous empêcher ou de nous restreindre ou de nous autoriser parce qu'il est le roi. C'est ça que ça veut dire aussi. Lorsque la Bible, la parole de Jésus dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute calomnie disparaissent du milieu de vous, c'est pour nous protéger. C'est pour nous empêcher de tomber dans ces pièges de l'ennemi. D'amertume, de rancune, de calomnie. Quand la Bible dit « ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche », c'est pas pour nous empêcher d'avoir du fun. C'est pour nous empêcher, au contraire, nous protéger contre les ruses et les dépendances de l'ennemi pour qu'on reste libre. Lorsque la parole de Jésus nous met en garde contre la convoitise, la pornographie, l'infidélité, les relations intimes avant et en dehors du mariage, c'est pour nous protéger. C'est pour nous défendre contre les bombes destructrices que le diable met constamment sur notre route. C'est pas pour nous empêcher d'avoir du plaisir. C'est pour nous protéger. Parce qu'il est un bon roi qui nous défend, qui veut nous protéger, qui veut nous garder. Quand la Bible dit que celui qui volait ne vole plus, ne mentez pas les uns aux autres, ne vous laissez pas gagner par l'amour de l'argent, c'est pour nous mettre à l'abri des mensonges du diable qui veut s'emparer de nos cœurs. Êtes-vous avec moi encore ce matin? Lorsque le roi nous défend, c'est pour nous défendre, c'est pour nous protéger. C'est toujours pour notre bien, pour nous protéger, nous mettre en sécurité. En fait, c'est pour notre vraie liberté. Alors, ne voyons pas les ordres du roi comme des restrictions, mais plutôt voyons-les comme des protections. C'est pas pour nous restreindre, c'est pour nous protéger, parce que c'est ce qu'elles sont, des protections. Jésus a vaincu, en tant que roi, il a vaincu mon entêtement, mon endurcissement. Il a acquis mon amour et mon allégeance et mon obéissance. En tant que roi, il me protège dans mes combats, il me défend contre mes ennemis. Mais dernièrement, en tant que roi, Jésus a gagné le combat contre Satan et il reviendra pour vaincre tous ses ennemis et régner pour l'éternité dans son royaume de paix et d'amour parfait. Alléluia! Alléluia! Le roi a réglé mon passé. Il est avec moi dans mon présent. Mais je sais que nous verrons pour l'éternité dans mon futur. Également, notre roi n'est absolument pas prêt d'abdiquer ou de renoncer à son pouvoir, ou de rendre les armes, de lever le drapeau blanc en signe d'abandon. Oh non, pas au contraire, notre roi, il est le vainqueur sur toute la ligne. Et c'est lui qui va avoir le dernier mot. Oh oui, Jésus a vaincu l'ennemi, le diable, il a vaincu l'emprise et l'empire du péché, de la rébellion. Il a même vaincu la mort en ressuscitant lui-même le troisième jour après sa propre mort. Et celui qui est ressuscité ne meurt plus et ne mourra plus jamais. Notre roi a promis de revenir avec puissance et gloire afin d'établir une fois pour toutes son règne d'amour, de paix, de pureté, de justice. Et c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. L'auteur de l'Évangile de Jean a aussi écrit le dernier livre de la Bible. Un livre qui fait peur à certaines personnes. Mais moi qui réjouis tellement mon cœur, parce que ce n'est pas un livre pour nous effrayer. C'est un livre qui peut effrayer certaines personnes, mais qui devrait réjouir tous les enfants de Dieu et tous ceux qui appartiennent au roi, parce qu'il décrit la révélation. L'Apocalypse veut dire dévoilement, veut dire révélation. C'est la révélation, non pas seulement de ce qui s'en vient, mais c'est la révélation du roi Jésus. C'est la révélation de Jésus-Christ. C'est la révélation de qui est Jésus et de ce qu'il va accomplir dans le futur également. C'est surtout la révélation et le grand dévoilement de qui est Jésus. Au chapitre 19, et c'est sur l'écran, chapitre 19, versets 11 à 16, cette vision que Jean a eue, il dit, « Je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes ou couronnes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. » Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper et juger les nations. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». C'est Jésus qui revient avec son Église. C'est Jésus qui revient en vainqueur, assis sur son cheval blanc pour vaincre. Et que vous ayez une approche symbolique de cette vision ou une approche littérale de cette vision, que vous ayez une approche physique ou spirituelle de cette vision, peu importe, ce texte annonce et déclare que le roi Jésus est encore bel et bien vivant et qu'il est toujours le roi des rois et le seigneur des seigneurs et qu'il va revenir littéralement, physiquement pour régner sur la terre, sur le reste, comme il va régner, comme il règne déjà sur l'ensemble de tout l'univers physique, spirituel, visible et invisible. Et va s'accomplir littéralement enfin la prière que nous prions depuis 2000 ans, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et c'est ce qu'il va accomplir. Alors va s'accomplir également cette parole. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur et roi Jésus-Christ. Et parce que Jésus est le roi vainqueur de tous ses adversaires, nous allons vaincre définitivement également lors de son retour, lors du retour du roi. Alléluia, ça va être glorieux. Apocalypse chapitre 17, verset 14 dit, « Les adversaires combattront l'agneau et l'agneau va les vaincre parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront également. » Amen, les vaincront également. Est-ce que vous êtes avec le roi ce matin? Est-ce que tu es du côté du roi? Est-ce que vous avez cette espérance et cette assurance que vous serez du nombre et que vous êtes du nombre des appelés, des élus et des fidèles? Je vais demander à Tamara et à Issa de revenir, s'il vous plaît. Jésus n'est pas un juge distant, en colère, désengagé, attendant que tu te plantes. Et Jésus, c'est pas le gars d'en haut. Jésus n'est pas ton chum, ton body. Jésus, c'est pas le petit Jésus de plâtre. Jésus, c'est pas le petit bébé de 3 kg 400. Jésus, c'est le roi. C'est le roi de tous les rois humains. C'est le seigneur de tous les seigneurs humains. Il est le maître de toute domination, de toute autorité sur la terre et dans le monde invisible. Jésus, c'est le roi de gloire. Jésus, c'est le roi de justice. Jésus, le roi, guérit les malades encore. Il ouvre les yeux des aveugles, il fait entendre les sourds, il fortifie les faibles, il délivre les captifs. Restaure ceux et celles qui sont brisés, blessés, parce qu'il a toute autorité et pouvoir pour le faire. Jésus, c'est ton abri quand les temps sont troubles. Jésus, c'est ta lumière quand ton monde est dans le noir. Jésus, c'est le prince de paix, c'est l'agneau de Dieu, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Jésus, c'est la résurrection et la vie. Il est notre roi, il est le roi, le king. Sa bonté est indescriptible, sa puissance est incompréhensible. Sa grâce est irrésistible. À son nom, les ténèbres tremblent. Dans sa présence, les démons fuient. Car le diable est, parce qu'il ne peut pas arrêter Jésus. La mort n'a pas pu le vaincre. Le tombeau n'a pas pu le garder. Parce que Jésus est le roi. Amen. Amen, il est le roi. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Jésus est le roi et je prie, ma prière, c'est que nous puissions garder cette vision de Jésus. Que nous puissions adopter et garder cette vision de Jésus. Comme l'Épître aux Hébreux le dit, Jésus, nous le voyons couronné d'honneur et de gloire. Nous avons les yeux fixés sur ce Jésus qui contrôle tout, qui dirige tout. Il est le souverain. Est-ce qu'il est ton souverain? Est-ce qu'il est ton roi? Il est le roi. Il est le roi. Et le roi t'appelle à venir à lui. Le roi t'appelle à venir à lui pour recevoir le pardon, pour recevoir la vie, pour recevoir sa réconciliation, pour recevoir la lumière qui va éclairer ton cœur. Ce matin, je t'invite à le recevoir comme roi, à le reconnaître, à l'accepter, à le recevoir, à reconnaître qui il est réellement. Il est le roi, il est ton sauveur. Le roi t'appelle à venir à lui, mais pour d'autres, le roi t'appelle à revenir à lui, à te soumettre à son autorité, à recevoir ses ordres, non pas comme des restrictions, mais comme des protections. À t'éloigner du péché, à plier les genoux devant sa majesté en lui soumettant ta volonté et tes décisions. Alors que nos yeux sont fermés. Ce matin, il y a ces deux appels. De recevoir le roi. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le roi t'appelle à venir à lui. Le roi t'appelle aussi à revenir à lui. Pour d'autres, c'est cette décision ce matin. Je veux reconnaître Jésus comme mon roi. C'est une erreur de penser qu'il y a Jésus sauveur, puis il y a Jésus Seigneur, puis là j'ai accepté Jésus comme Seigneur, puis peut-être un jour comme... Non, il est Seigneur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il est mon Seigneur, il est mon roi. Et si ce matin, c'est votre décision, soit de venir à lui ou de revenir à lui, juste lève ta main devant lui ce matin. Juste, Seigneur, me voici. Je reconnais que tu es roi, que tu es Seigneur. Et je te reçois aujourd'hui, peut-être pour la première fois ou peut-être pour une centième fois. Mais je me soumets à toi. Je reconnais ta royauté. Je reconnais ta puissance. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et je me soumets à toi aujourd'hui, entièrement. Il y a des zones dans ta vie. Il y a des gens ici qu'il y a des zones dans votre vie où vous ne voulez pas permettre, vous ne voulez pas céder, vous ne voulez pas vous soumettre à la volonté de Dieu. Vous le savez, que ce comportement, ce geste, cette action ne coïncide pas avec la justice de Dieu. Mais ce matin, tu fléchis les genoux devant Dieu et tu reconnais, Seigneur, je te donne aussi cette zone d'ombre. Je te donne aussi cette zone d'insoumission. Je te la soumets maintenant. Je l'emmène, toute pensée captive, à l'obéissance de Jésus, mon roi. Donne, Seigneur, ma vie, comme on l'a chanté ce matin. Je te donne mon cœur. Et j'aimerais qu'en terminant, nous puissions adorer celui qui est majestueux.